En fait, je ne vais pas suivre tellement le titre, je suis désolé. Parce qu'en y réfléchissant, j'ai découvert plein d'autres problèmes. Donc, ce sera une petite partie simplement de, disons, de l'exposé. Le sujet est difficile. Il est difficile à plus d'un titre. Comment dire ? D'abord parce que, bon, je vais essayer de vous le montrer au fur et à mesure, mais je pense que l'abord est assez facile. Disons comme ça, l'expression communauté d'études, c'est un peu une antinomie. Et on va devoir donc s'apercevoir que pour qu'existe ou se profile une chose pareille, comme une communauté d'études, il y a des fois des conditions qui sont des conditions drastiques. Ce qu'on va examiner au fur et à mesure. Pour le dire en un mot, dans la tradition hébraïque, l'étude est vécue comme une guerre. C'est, bon, vous savez, par exemple, il y a l'expression « le livre des guerres du Seigneur » dans la Bible. Eh bien, ce livre des guerres du Seigneur, dans les textes talmudiques, s'interprétait comme étant tout simplement la Bible elle-même. Et la chose est à ce point, disons dans le Talmud, que cette guerre, elle est revendiquée et affirmée. L'étude, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un dialogue bienheureux, c'est pas un échange poli d'arguments, c'est une vraie bataille. Alors je vais commencer par une petite citation, elle nous servira de fil directeur, en tout cas du point de vue du climat psychologique de ce que suggère cette question. La citation en question, c'est, je ne vous la dirai pas dans le texte, hein, je vais vous dire tout en... On dit comme ça que même un père et son fils, même un maître et son élève, lorsqu'ils étudient, ils deviennent ennemis. Ennemis, c'est le mot, comment dire, on peut, évidemment métaphoriquement, mais ils deviennent ennemis l'un vis-à-vis de l'autre. Ensuite de quoi, on continue en disant, et ils ne se quittent pas sans redevenir à nouveau amis, sans que revienne là, cette dimension de l'amitié et de l'amour. Voilà le contexte et voilà le paradoxe. Là, vous savez donc, je suppose, on a tous un peu l'expérience de ce qu'un dialogue intellectuel ou une réflexion amenée à plusieurs. Il n'est pas rare que les arguments échangés soient, brutaux et qu'ils mettent les gens en demeure de répondre sur des choses qui souvent donc les accablent. Donc cette dimension, on va dire, d'inimitié, elle n'est pas inconnue. Mais vous voyez, par définition, ça ne forme pas une communauté, une chose pareille. En revanche, l'idée qu'ensuite on se quitterait redevenus les meilleurs amis. L'exemple, donc, c'est par exemple un père et son fils. Un père et son fils, c'est un vécu familial très fort. Ça signifie donc des affinités, un monde de confidence, un monde qui se connaît, qui se comprend. Même eux, dans le contexte de l'étude, deviennent ennemis. Pourquoi ennemis ? Simplement parce que chacun a quelque chose à défendre, chacun a quelque chose à dire. Il n'est pas prêt à renoncer à sa parole, il n'est pas prêt à renoncer à sa pensée, à ses sentiments. Et plus l'étude s'approfondit, et plus ces questions deviennent prenantes et quelquefois donc cruelles pour ceux qui dialoguent, qui acceptent le dialogue. Voilà. Ça, c'est pour vous donner le contexte général. Maintenant, reprenons les choses, au point de départ. La notion d'étude est une notion très très vaste. Je vais essayer de ramener ça à des choses, en français, le plus simple possible. Je vais risquer une traduction pour la question qui nous est proposée. Plutôt que communauté d'études, le mot étude ne veut pas dire grand-chose en français, je propose d'aborder ça comme une communauté de réflexion. Voilà, et je voudrais insister sur ce terme, réflexion, parce que c'est lui qui va nous faire mieux comprendre, je pense, l'antinomie et la difficulté soulevée. Réflexion, ça veut dire donc le fait, on va dire, par exemple, de méditer une question, soulever un problème, s'attacher à le résoudre, envisager les conséquences de tel et tel acte, attitude, pensée, etc., les tenants et les aboutissants de telle et telle doctrine. Voilà ce qui s'appelle la réflexion en général. Par définition, quand on réfléchit, on se retire en soi-même. On retourne dans son intimité. C'est précisément le moment où on ne dialogue pas. Quand on réfléchit, on s'arrête. Ouais, par exemple, là je parle, je ne réfléchis pas. Si je dois réfléchir, quelqu'un me pose une question, d'ailleurs je vous invite à participer, hein. Si quelqu'un me pose une question et que je dois réfléchir, je vais m'arrêter de parler, le temps de la réflexion. Donc parler de communauté de réflexion, a priori, ça paraît tout simplement contradictoire. On peut parler de réflexion d'un côté, de gens qui réfléchissent, puis ensuite mettrait en commun, si le cœur leur en dit, des conclusions, des thèses. Mais réfléchir en commun, alors ça, c'est une gageure. A priori, ça paraît presque l'inverse de ce que suppose en tout cas une réflexion authentique. Cela dit, je pense que vous savez tous aussi, puisque donc c'est une expérience très commune, même si je vais utiliser la tradition hébraïque pour radicaliser cette expérience, mais je pense qu'elle est partagée par tout le monde. On sait tous que quand on réfléchit, en fait, on n'est jamais tout seul. D'abord parce qu'on réfléchit dans un cadre culturel, on n'est jamais le premier à penser, on n'est jamais le premier à parler. On réagit toujours à certaines paroles, à certaines pensées, à certaines personnes, à certaines attitudes. Et donc, même si on peut appeler la réflexion un retour vers soi, ou Platon appelait ça un dialogue de l'âme avec elle-même, il reste pas moins que dans ce dialogue, tous les éléments sont en général des éléments qu'on a reçus, par tradition, par culture, par contact, par expérience. Donc l'idée que dans la réflexion il y aurait une place pour un échange, cette idée n'est pas absente. On peut prendre, je suppose, hein, on va prendre n'importe quel texte, n'importe quel livre, comment dire, qui s'écrit aujourd'hui. Il se pose toujours dans un contexte culturel défini, il emploie un vocabulaire défini, il prend position vis-à-vis d'auteurs définis, donc il dialogue. À sa manière, voilà. Mais ça ne forme pas une communauté. Ça ne forme pas une communauté, d'abord parce que, très souvent, disons, le côté, on va dire, personnel d'une réflexion fait que l'isolement est beaucoup plus grand que la communication véritable. Ensuite, on le sait tous très bien, on se partage tous en camps. On est à droite, on est à gauche, on est au nord, on est au sud, on est toujours quelque part. Toujours quelque part pour prendre parti pour et contre. Donc la notion de communauté, malgré ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière une communauté culturelle, cette notion-là, elle bat toujours de l'aile, elle est toujours en perte de vitesse, elle passe toujours à la trappe. Les meilleurs ouvrages qu'on pourrait dire, disons, je sais pas, de réflexion critique à l'égard de tel et tel courant d'idées, ou même historique, etc., sont toujours des prises de position qui mettent en défaut d'autres prises de position, ce qui va se révéler être finalement des camps qui s'opposent, et donc de communauté, il n'y en a pas. Voilà. Alors, le paradoxe est là. La difficulté est là. Est-ce qu'il est envisageable de penser, de parler, de pratiquer, de vivre ce que j'appellerais donc, ce que je traduirais par une communauté de réflexion? Je vais vous rapporter quelques éléments que je tire donc dans l'ensemble du Talmud pour essayer donc de proposer une sorte, on va dire comme ça, d'idéal type. Vous allez vite comprendre que c'est vraiment un idéal type. Ça veut dire la mise en pratique de cette chose-là, elle demande une telle discipline que, disons, ça relève plutôt de la sphère de l'idéal. Cela dit, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il existe donc des communautés d'études dans le judaïsme. Elles sont pas rares, elles sont pas forcément fréquentes, mais elles sont pas rares. Ça existe. Ça existe, mais ça réclame une discipline, celle qu'on va voir donc progressivement. Premier élément, le lieu lui-même. Pour qu'il y ait une communauté de réflexion, il faut d'une certaine manière que la parole ne reste pas dans la sphère privée. Il faut qu'elle se rende d'une manière ou d'une autre publique. Voilà. Quelle forme de publicité, entre guillemets? Alors, pas du tout celle, on va dire, du monde numérique actuel, des médias, etc. Non. C'est ce qu'on appelle un lieu d'étude. En hébreu, ça s'appelle un bet midrash, c'est un lieu d'étude. Donc, c'est un lieu. Et ce lieu est défini par des règles. Alors, on pourrait appeler ce lieu-là public, si vous voulez, même s'il ne relève pas, on va dire, juridiquement de l'espace public, c'est une autre question. Public dans la mesure où toute personne soucieuse d'étudier, d'apprendre, de réfléchir, de dialoguer, d'échanger, etc., y a normalement sa place. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appellerait donc la définition d'un lieu d'étude. Dans le monde, disons, de l'étude hébraïque, il n'y a pas besoin de diplôme pour apprendre, il n'y a pas besoin d'avoir le bac ou le je ne sais pas quoi. Peu importe l'âge, comment dire, la mentalité, etc., a priori, tout le monde y a sa place. Voilà. Mais ce lieu, lui, il réclame une attention particulière. Une des règles, on va dire, fondamentales, ce qui nous intéresse ici, hein, c'est d'essayer de définir ce qui pourrait s'appeler une réflexion en commun. Une des règles fondamentales, c'est que réfléchir en commun, ce n'est pas du tout, en fait, vivre ensemble. Alors, je vais vous donner une règle. Alors, ce que je veux dire, c'est un peu formel, parce que c'est pas toujours comme ça, mais disons, formellement, l'a priori, disons, qui règle un lieu d'étude, c'est que on ne mange pas dans un lieu d'étude, on ne boit pas dans un lieu d'étude. C'est pas un lieu, alors oui, c'est tout le contraire du banquet du livre, hein, pour l'instant en tout cas, très loin de l'idée du banquet de Platon, etc. Pour que ce lieu, disons, il conserve sa spécificité, il faut que ce soit un lieu qui soit donc voué à l'étude. Et donc, alors bon, je sais bien que si aujourd'hui, dans n'importe quel lieu d'étude, il y a une machine à faire du café, etc., les besoins, on va dire, évidents, s'il faut que je boive un café pour me concentrer, alors ça ferait partie du dossier. Mais l'idée qu'on mangerait à cet endroit-là, qu'on se réunirait donc autour d'un banquet pour, manger, boire, et au cours de ce banquet, discuter des thèmes philosophiques les plus importants, non, cette idée-là est complètement bannie d'office. Un lieu d'étude, c'est donc un lieu dans lequel, en fait, il n'y aura pas, on va dire comme ça, d'habitation commune. On ne vit pas ensemble, on n'habite pas ensemble, on ne mange pas ensemble, on ne participe pas à ce qui s'appellerait, ce que j'appelle l'habitation, parce que, dans le Talmud, ce sont les critères même de l'habitation. Manger, boire et dormir quelque part, c'est ce qui définit une maison. Voilà. Un lieu d'étude, ce n'est pas une maison, pas non plus une maison commune. C'est un lieu, donc, réservé à cet usage, qui est l'étude des textes. Voilà. Ça suppose, donc, au départ, déjà, au niveau des rapports humains, un certain ascétisme, en fait. Une grande partie de ce qui va faire, je ne sais pas, la fraîcheur des rapports humains, les rapports spontanés autour d'un verre, autour d'un bon repas, l'amitié partagée parce qu'on a un plaisir qu'on partage en commun, tout ça est éradiqué d'emblée. Un lieu d'étude, donc, c'est un lieu voué à la réflexion et qui doit respecter ces critères-là. C'est le premier élément. Deuxième élément, alors ça devient de plus en plus dur. Le deuxième élément, c'est l'élément évidemment qu'on dirait, enfin un des plus fondamentaux, on dirait dans cet échange, c'est la rigueur et la salubrité et l'éthique, on pourrait dire, des rapports humains qui doivent s'y dérouler. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que l'étude, est définie psychologiquement comme un contexte de guerre. Donc d'emblée, on sait que les rapports vont être tendus. Et plus l'étude va être poussée, plus chacun, en quelque sorte, sera amené à ses derniers retranchements, plus chacun devra rendre compte de sa parole vis-à-vis de la parole des autres, et plus les échanges seront tendus. Ça suppose donc, un encadrement du point de vue des rapports humains. Cet encadrement, il ne peut pas être formel. Je sais bien qu'on peut toujours envisager, un maître qui tape avec sa baguette, toi tais-toi, toi bouge, toi dis quelque chose, toi réponds, etc. Mais on sait tous que ça favorise pas la réflexion, du tout. Pour qu'il y ait un véritable échange, donc une véritable réflexion, il faut que cette discipline, elle soit prise par chacun. Et qu'elle soit, menée de manière systématique dans l'ensemble des échanges. Je vais vous en donner quelques exemples, parce qu'il y a on va peut-être s'attarder là-dessus. Parce que c'est l'élément finalement dominant. Il y a ce qu'on appelle une Mishnah, donc un enseignement dans les Pirkei Avot. Bon, c'est un traité de la Mishnah qui est un traité assez connu, écrit au IIe siècle. Cet enseignement, donc, il distingue celui qu'on appelle le sage, le savant, on peut appeler le sage, le savant, de celui qu'on appelle, alors je vais vous dire le mot hébreu, parce qu'il y a une difficulté de traduction, le golem. Vous connaissez tous le golem du Maharal de Prague, cette espèce de créature à moitié achevé, etc., ce robot, voilà. Le golem, effectivement, c'est un terme technique dans le Talmud pour désigner un objet qui n'a pas été encore achevé. Par exemple, une chaussure qui n'a pas été complètement formée, on a la forme générale, on n'a pas encore mis le talon, etc., ou la forme d'une épée, la première forme qui est donnée par le forgeron avant qu'elle soit trempée, etc., etc. Un outil, donc, qui n'a pas été achevé, on l'appelle un golem, voilà. Alors, on emploie métaphoriquement la même terminologie pour caractériser un être humain qui est donc pas du tout un imbécile, ni un sot, je sais que certaines traductions traduisent ainsi, mais c'est faux, qui est ce qu'on pourrait appeler, on appellerait ça chez nous, un intellectuel première main, première catégorie, je ne sais pas exactement, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un, qui pense véritablement, mais qui précisément, dans ce qui nous intéresse ici, est incapable de surmonter certaines difficultés d'ordre psychologique, quelquefois méthodologique, pour être capable de discuter avec d'autres personnes. Voilà. Donc, quand je vais vous parler de ça, très franchement, je me juge, moi, golem, je vous le dis tout de suite, d'accord ? Qu'on soit tranquille, je ne me range pas dans la catégorie des sages. Vous allez voir que, ce qui est requis ici pour avoir affaire à un vrai dialogue, cette dimension de sagesse qui est requise, on est loin du compte, moi, je prétends à rien. Donc, je suis très à l'aise avec ce genre de choses. On va envisager donc certaines règles. Donc, on dit qu'il y a 7 choses. On va pas les faire toutes, on va faire quelques-unes. 7 choses qui distinguent le sage de cette, ce qu'on appelait, je ne sais pas, demi-intellectuel ou intellectuel de service, etc. Voilà la première chose. Alors là, vous, j'espère que vous allez sauter au plafond, parce que ça fait partie de la guerre de l'étude. La première chose, le sage ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand que lui. Quand je dis ne parle pas, il ne prend pas la parole. Voilà, ça veut dire qu'il peut répondre. Mais a priori, il ne lui prend pas la parole. Voilà. Alors, cette règle, quand on y réfléchit, on va essayer d'y réfléchir vraiment avec un calcul rationnel, etc. Vous allez voir, elle paraît d'une évidence incontournable. Dans la réalité, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Surtout, on va dire, dans le contexte moderne. Le contexte moderne se définit par le droit à l'opinion. Normalement, pour n'importe quel esprit un peu philosophique, ça devrait faire tilt, parce que le droit à l'opinion, c'est pas du tout le droit à la pensée. Ça n'a rien à voir. L'opinion, par définition, c'est pas la pensée. Mais le droit à l'opinion, ça fait que chacun estime qu'il a une opinion, qu'il peut l'exprimer, et qu'il est en droit de la dire envers et contre tout, de la maintenir, quel que soit, contre vents et marées, et contre tous les arguments possibles et imaginables. Vous imaginez bien que dans un tel contexte, l'idée de réfléchir en commun est morte. C'est impossible. Si effectivement, donc, mon droit à l'opinion, c'est un droit presque garanti par la Constitution, on pourra jamais m'arracher mes idées et me forcer à comprendre que ce que je dis est complètement faux. Il faudra respecter certaines règles. Voilà. La première consiste ici, donc, ne pas prendre la parole devant quelqu'un qui est plus grand que nous. Ça suppose que, je vous le dis tout de go, nous ne sommes pas égaux devant la pensée. Nous ne sommes pas égaux. On n'a pas besoin de sortir, on va dire, des données génétiques pour parler de ça. Il suffit de réfléchir 5 minutes. Prenez donc, on va dire comme ça, voilà, 2 personnes d'intelligence moyenne, de sensibilité normale, etc. À l'une, vous donnez 20 ans d'expérience. À l'autre, vous donnez 60 ans d'expérience. Eh bien, le simple calcul rationnel fait dire que le jugement d'un homme qui a 60 ans d'expérience, partant des mêmes prémices que l'autre, ce jugement est mieux formé. Il est mieux formé tout simplement parce qu'il a eu le temps de se reprendre, de réfléchir 2 fois, 3 fois, 15 fois, 10 fois à la même question. A priori, j'espère que je vous choque, parce que j'attends un peu vos réactions. Donc, a priori, l'idée qu'il y ait une inégalité devant la pensée, on dira que c'était une idée acquise, on va dire, dans l'Antiquité et l'époque médiévale, peut-être pas à bon droit. Je vais préciser. Aujourd'hui, quand on va parler, par exemple, de quelqu'un qui est, j'imagine quelqu'un qui est plus grand que moi, vous allez me dire, quelqu'un, par exemple, je viens de le dire, qui est plus âgé. Oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. D'accord? Là, j'ai pris un exemple, on va dire, pour faciliter le calcul rationnel, en prenant 2 personnes qui auraient évolué de la même façon, etc. C'est pas toujours le cas. D'abord, il y a des gens qui sont plus ou moins doués. Ensuite, on peut avoir, 60 ou 80 ans et n'avoir réfléchi à rien du tout. Donc l'âge, ça prouve rien. Et donc, on n'a pas de critères extérieurs pour définir qui va être plus grand, qui va être plus petit, qui devra se taire et écouter d'abord, et qui, effectivement, pourra parler en premier. Sauf, et c'est là que ça devient donc difficile, sauf si on est attentif aux arguments échangés. Ouais. Si je devais me baser, on va dire, sur des réflexions extérieures, alors on dira... celui qui est le plus vieux, qui a la plus longue barbe, les plus grands diplômes, le pédigré le plus, voilà, il descend du cheval ainsi, etc. Ouais. Mais ça n'a rien à faire dans le contexte d'une réflexion commune. En revanche. Mais là, le problème devient vraiment, on va dire, logiquement et existentiellement difficile. En revanche, je pense qu'on le sait, parce qu'on a suffisamment d'expérience pour le savoir, on peut reconnaître des arguments plus forts que les nôtres. Maintenant, l'avouer, l'admettre, c'est une autre paire de manches. C'est un autre débat. Mais on peut donc reconnaître, supposons, on a tous fait cette expérience, supposons, disons, qu'on ne soit pas impliqué, qu'on voit dialoguer 2 personnes, moi je sais que je suis très bien, tout à fait capable de reconnaître qu'il y a un ici qui est mieux formé que l'autre, plus intelligent, plus rapide, plus d'expérience, plus de jugement, etc., etc. Et la difficulté, c'est quand il s'agit de moi, et que moi je suis pris dans le débat. Voilà, la première règle, donc, qui consiste à dire qu'on ne prend pas la parole devant quelqu'un qui est plus grand que nous, elle oblige, quand on la prend comme discipline, à admettre qu'on peut avoir tort. Alors je vous dis ça, c'est une banalité, hein, qu'on peut avoir tort. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Mais en fait, c'est le vrai problème, et c'est le noyau de ce qui peut constituer ou ne pas constituer une communauté de réflexion. Pourquoi ? Parce que la seule manière pour commencer à s'établir une réflexion en commun, c'est-à-dire une progression dans la réflexion qui n'est pas menée simplement de manière solitaire, mais avec d'autres, la seule manière, c'est que je me risque à cette situation dans laquelle tous mes arguments pourraient être réfutés. J'insiste sur ce point parce que je pense que je vais y revenir. Parce que toute la difficulté ici, c'est que d'une certaine façon, on sait tous toutes ces choses-là. Et donc, tout ça, c'est des banalités. Sauf que, existentiellement, ce ne sont pas du tout des choses triviales. Du tout. Et en fait, la plupart du temps, on ne tient pas du tout, on n'est pas capable en tout cas de soutenir cet échange. Voyez-vous, il y a une guerre. C'est normal. Personne n'a envie de renoncer à sa parole. Quand quelqu'un, comment dire, de plus fort que moi, survient dans un débat, j'ai qu'une envie, c'est de lui fermer la bouche par tous les moyens possibles et imaginables. Voilà, je dis franchement, je suis pas. C'est la réaction naturelle, spontanée, et on pourrait dire aussi la plus légitime de tout être humain. Cette réaction, je ne veux pas le remettre en cause. Ce que je veux remettre en cause, ce sont les moyens qu'on va utiliser. Si j'ai affaire à quelqu'un qui est vraiment intellectuellement plus costaud, je n'ai aucune raison de renoncer à mes propres intuitions. Seulement, la difficulté, c'est qu'il va falloir que moi je travaille beaucoup plus maintenant. Et que je bosse peut-être pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans pour être capable de lui répondre par d'autres arguments plus forts que les siens. Ça, c'est ce qui s'appelle une communauté de réflexion. Si je n'ai pas cette patience, vous m'entendez mal ?
Oui, pardon.
Si je n'ai pas cette patience de rester dans le domaine de l'argumentaire, de la démonstration, de la preuve, du travail de réflexion. Si je n'ai pas cette patience, alors, évidemment, à la première occasion, je vais fermer ou je vais utiliser tous les moyens possibles pour lui fermer la bouche. J'aurais reconnu, c'est vrai, j'aurais reconnu qu'il est plus grand que moi, qu'il est meilleur que moi, mais jamais je ne lui accorderais le bénéfice de m'apporter quelque chose, en fait. J'aurais fait en sorte que cette grandeur, cette dimension supplémentaire qu'il a vis-à-vis de moi, j'aurais fait en sorte qu'elle se perde tout simplement dans la nature. Et le lendemain, heureusement, grâce à Dieu, je l'aurais oublié. Ce qui fait que je peux me retrouver tout entier avec mon ego bien formé, mes certitudes, ma satisfaction personnelle, un contentement de moi, un contentement de soi qui n'en finit pas. Voilà. C'est ça, et comment dire, on va y insister, la difficulté d'une réflexion en commun. Il faut que je puisse accepter de risquer ma pensée, et dans risquant ma pensée, de risquer d'avoir tort. Dans le contexte d'une guerre, au niveau affectif, ça paraît impossible. Dans le contexte d'une réflexion, si je prends la peine d'y réfléchir, il faut savoir que ceux qui perdent ne sont pas forcément les perdants, en fait. Pourquoi ? Parce que si à l'occasion de ce genre d'échange, je découvre quelque chose que moi j'ignorais complètement, une dimension, par exemple même une faiblesse dans mes raisonnements que j'avais jamais remarqué, eh bien, j'ai gagné fondamentalement quelque chose que j'ignorais. La question, c'est de savoir, est-ce que je suis capable de m'accrocher à ça ? Est-ce que je suis capable de m'accrocher à ce qu'une personne plus forte que moi peut m'apporter ? Je vous dis tout de suite, d'après mon expérience, ça fait, 15 ans que j'enseigne le Talmud, etc. Donc, dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile. Que quelqu'un ait sérieusement le souci de la vérité de ses propos, de ses attitudes, de ses réflexions, qu'il ait suffisamment pour accepter qu'il soit pris en tort, convaincu de s'être trompé, et pour qu'il s'ouvre à ce qu'on pourrait appeler cette dimension nouvelle qui s'appelle apprendre. Je sais bien qu'aujourd'hui on multiplie les apprentissages tous azimuts, etc. Mais les éléments qu'on rentre, en particulier de pédagogie, ne sont pas là pour aider. Cette idée, par exemple, que le plus grand doit descendre vers le plus petit pour l'aider à monter les marches, c'est l'idée qui pédagogiquement paraît la plus sensée, c'est l'idée la plus contradictoire avec ce qu'on est en train de dire ici. Non, non, ce n'est pas au grand de descendre, c'est au petit de monter. Alors quand je dis ça, vous avez compris, on ne peut pas aller contre la pédagogie et prétendre en même temps enseigner. Pourtant, je vous dis, c'est ce que je fais. Alors, succès variable. Mais c'est, je pense, la seule chose qui permette effectivement à l'être humain d'évoluer, d'avancer, tout simplement parce qu'il peut découvrir ainsi des pans entiers de réflexion qui lui manquent. Et là, si vous voulez prendre la comparaison, c'est simple. Hein. Si quelqu'un, on va dire, de moyennement disposé, quelqu'un qu'on trouve sympathique, d'accord, moyennement intelligent, moyennement sensible, etc., vous le lancez à 20 ans sûr de ses opinions et ne voulant pas en changer, bah, à 40 ans, il aura les mêmes, à 60 ans aussi. Si jamais il en a changé, c'est parce qu'il se fait casser la figure par l'existence, la vie, les chaos du monde, etc. Et il est sorti de là simplement amer et déprimé. Si en revanche, la même personne, elle est prête à encaisser les coups d'une réflexion qui effectivement le dépasse, et vis-à-vis desquelles il n'a pas les moyens de répondre, alors là, non. Parce que ce qui s'ouvre devant lui, c'est un immense espace de progression, et s'il saisit cette opportunité, alors ça devient un autre homme. Voilà, ça c'est une des premières règles qu'on pourrait appeler ne pas prendre la parole devant quelqu'un qui est plus grand que soi. Ce qui ne veut pas dire ne pas lui répondre. Mais répondre à quelqu'un qui est plus grand que soi, ça peut prendre 10 ans. Et tout l'enjeu se situe dans cette patience et cette capacité, ou on pourrait même dire ce désir d'apprendre et d'évoluer. C'est jamais acquis, loin de là. Deuxième règle, je vais vous citer. Voilà, une règle qui dit donc... j'ai la traduction en français. Voilà. Ne pas s'insinuer au milieu du propos de son interlocuteur. Encore une fois, c'est une banalité. Vous savez, quand on parle, il y a toujours un type qui nous interrompt. On lui dit, attends, j'ai pas fini. 2 secondes. T'as même pas compris ce que j'ai en train de dire. Tu t'imagines que t'as... Non, t'as pas saisi. Il y a une certaine vérité dans ce propos-là. Mais ça va plus loin que ça. Voilà. Il y a une difficulté qui est ce qu'on pourrait appeler... pour un être humain, la formation de sa propre parole. Je vous disais tout à l'heure, on n'est jamais les premiers à parler. On a toujours parlé avant nous. On a toujours réfléchi avant nous. Nous, on vient au monde dans un contexte dans lequel le langage est déjà constitué, la culture est immense, on apprend à parler, on en prend quantité de choses en même temps. Et donc, on est déjà habité par quantité de paroles qui ont été dites avant nous. Voilà. Quand j'entends quelqu'un qui parle, il n'est pas du tout évident que vis-à-vis de lui, je sois capable d'assumer ma propre parole. Il y a une manière très simple, on va dire la plus facile, la plus aisée, de procéder dans un pseudo-dialogue, c'est d'utiliser les mots de l'autre, d'utiliser les chemins qu'il a ouverts, s'insinuer au milieu d'eux, et de faire comme si nous aussi on était là, et moi aussi je suis. Bah oui, bah j'ai compris. Intellectuellement, j'ai compris. Oui, c'est vrai, c'est intellectuellement, j'ai compris. J'ai entendu ce qu'il a dit. Vous savez, souvent, pour parler... Vous avez remarqué, hein, tous les enfants parlent, sauf ceux qui ont vraiment des problèmes. Et donc, il ne faut pas être spécialement intelligent pour parler. On n'a pas besoin de réfléchir pour utiliser le vocabulaire. Entendre des mots, comprendre leur sens dans un contexte, et donc savoir les répéter, ben oui, c'est ce qu'on appelle à la portée d'un enfant. Ça s'appelle apprendre à parler. Mais la difficulté, c'est que ça n'a rien à voir avec réfléchir. Alors, encore une fois, c'est une banalité. Oui, mais la difficulté, encore une fois, c'est que pour surmonter cette banalité, c'est pas du tout évident. Et il n'est pas du tout évident, alors encore une fois, j'espère que je vais vous choquer un peu, je ne sais pas, vous ne réagissez pas, alors moi je continue. Hein. Il n'est pas du tout évident qu'un être humain ait une parole personnelle. Ce n'est absolument pas évident. Cette chose-là, c'est, comment dire, c'est un combat, c'est un débat. C'est une chose qui doit se former, alors encore une fois... dans la confrontation et la réflexion avec d'autres, mais c'est absolument pas évident, c'est pas une donnée de base que j'ai une parole personnelle. Vous savez, c'est une des choses qui m'a toujours stupéfait dans l'éducation nationale. J'étais aussi prof dans l'éducation nationale. On demande à des gosses de 15 ans, faites-nous une copie originale. Voilà. Moi, j'ai eu 15 ans. J'ai eu des élèves qui avaient cet âge-là. Je trouve la prétention insupportable. C'est une, une hypocrisie. Et une manière de cultiver un ego complètement imaginaire. À 15 ans, il est extrêmement rare, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il est extrêmement rare qu'à 15 ans, un être humain ait un point de vue original. Mais comment voulez-vous qu'il... Où se serait-il formé, ce point de vue original? On fait des suppositions, vous voyez, du fait qu'on a un droit à l'opinion, donc j'ai des sentiments, c'est vrai, j'ai des sentiments, j'ai des pensées. Ça veut dire que cette pensée, elle m'est personnelle. On a, je suppose, disons qu'avec un peu d'expérience, on a suffisamment remarqué à quel point on répète ses parents, ses professeurs, ses maîtres, avant que se forme une pensée originale qui ne soit pas simplement tissé des mots de l'autre, emprunté du vocabulaire, et etc., etc. Waouh, c'est un vrai combat. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler ici la deuxième règle. Vous voyez, c'est tous des règles de patience, hein, de patience et de longueur de temps. Bien souvent, on va dire presque une sorte d'aisance spontanée, naturelle, on s'imagine que nos premiers sentiments et nos pensées, etc., nous sont tout à fait propres. Et c'est vrai, je réagis, on me dit quelque chose, je réagis, quelquefois avec la dernière brutalité. Comment ? Mais c'est pas possible. Puis, 10 ans après, j'ai remarqué que ma mère réagissait comme ça. Alors ça fout un choc. Parce que côté, comment dire, itinéraire personnel, on repassera. C'est pas le cas. Donc, je suis obligé quand même ici de voir travailler en profondeur, finalement, les choses qui m'ont constitué, pour savoir où se situe effectivement ma parole. Ne suis-je qu'un singe savant ? C'est une bonne question, hein, qu'on n'aime pas se poser, mais c'est une bonne question. Dans beaucoup de domaines, encore une fois, sans caricaturer, je veux dire par là que on remarque un singe savant, quelqu'un qui devant nous professe des doctrines, on comprend bien que de toute façon il ne fait que répéter des mots. Ok, on n'est pas forcément mieux logé. En tout cas, dans certains domaines, ce n'est pas toujours le cas. Alors avant que puisse se former l'idée qu'on aurait une réflexion en commun, encore faut-il que, comment dire, des pensées individuelles soient suffisamment assises pour effectivement s'échanger. Et donc une des règles ici, ça consiste à faire très attention à la manière dont on gère la parole de l'autre. Quelqu'un me parle, quelqu'un m'envoie des arguments, quelqu'un m'explique quelque chose. Quand je dis argument, il faut prendre ça au sens très large, hein. Moi je suis, comment dire, dans le paysage, je suis pas aristotélicien, je suis pas platonicien, je veux dire plutôt aristotélicien. Alors vous prenez, ça va de la rhétorique jusqu'à l'argument rationnel scientifique. D'accord? On prend très large. Un argument rhétorique, c'est aussi un argument. Donc prenez très large. On m'adresse un argument. La question, la première question que je dois me poser, cet argument, moi je me trouve où par rapport à lui? Et ça demande un effort très particulier de ma part. Par exemple, bon, disons, vous voyez, je vous dis ça, là, qu'une pensée personnelle, c'est un exercice difficile. Une parole personnelle, c'est un exercice difficile. Je suis sûr que vous pensez le contraire. J'en suis sûr. Voilà. Ça, je vous le dis juste. Non, mais j'aime bien vous piquer, parce que sinon, ça bougera pas. Ah, c'est la guerre. Donc, j'en suis sûr. Et comment dire, j'en suis sûr parce que je le pense aussi. On est tous nés avec des grands talents et, comment dire, avant de s'imaginer que c'est pas le cas, il faut drôlement bosser. Donc, je vous le dis juste pour que vous sachiez bien, vous voyez, comment dire, parce que je dis une parole qui paraît, oui, pourquoi pas, on peut très bien rebondir sur cette parole-là et s'en servir. Ah ouais, mais on n'y est pas du tout, là. Parce que c'est pas ce qu'on pense. Pourtant, on va dire comme ça, le contexte intellectuel, alors quelquefois c'est le contexte idéologique, où il faut penser comme si, il faut pas dire cela, n'employez pas ce mot-là, monsieur, etc. Alors automatiquement, on est des types gentils, hein, on fait comme tout le monde. Ouais, mais en fait, on ne sait pas du tout dans ce contexte-là où on se trouve. On ne sait pas du tout, au fond, ce qu'on en pense. On n'a pas commencé tout le travail que nécessitait ici la prise de position par rapport à une parole qui est proférée avec plus ou moins d'autorité, avec plus ou moins d'importance ou de sympathie pour nous, etc. Voilà. C'est la deuxième chose. On va... La vérité, j'ai pas de montre, donc il m'est difficile de mesurer. Allez-y. Waouh, j'en ai pas la moindre idée. Pas la moindre idée. Non, non, du tout. Grand miel en face. Moi, je fais pas de politique. Alors, revenons à nos moutons. Non, mais c'est intéressant, vous voyez, parce que... Comment les choses rebondissent? Non, c'est intéressant comment les choses rebondissent. Parce que finalement, chacun réagit là où il se trouve. Donc... ouais. On est d'accord. Non, non, on est d'accord. Manger, c'est fondamental. Je vais donner une troisième règle. Voilà. Voilà, par exemple, cette règle très simple, voilà. Il ne répond pas avec précipitation. Le sage ne répond pas avec précipitation. Voilà. Vous imaginez, d'abord le sage, c'est comme dans les mythes d'Extrême-Orient, c'est la montagne, il est calme, il est tranquille, posé. Évidemment, il ne va pas réagir avec précipitation, il ne va pas riposter, comment dire, sans prendre le temps de réfléchir. Voilà. Ok. La question, c'est, vous voyez, dès qu'on ouvre une perspective pareille, on ne sait pas quoi en faire. La vérité, on ne sait pas quoi en faire. Parce que c'est bien vrai. D'accord, c'est une banalité. Quand quelqu'un nous donne un argument, si on veut soutenir un dialogue sérieux, si on veut avancer en commun, il faut prendre le temps de réfléchir à l'argument. L'évidence même. Ouais, mais combien de temps? Allez-y, combien de temps? Une heure, il dit, voilà. C'est en fonction de la digestion. Ouais. Voilà, ça fait partie, oui, encore une fois, ce qu'on pourrait appeler, moi ce que j'appelle ça l'idéal type, modèle théorique, du point de vue rationnel, on dirait que c'est l'évidence, le sage ne répond pas avec précipitation. Voilà. Maintenant, comment on vit ça? Ça veut dire quoi, répondre avec précipitation? Ah ben, il y en a qui réagissent sur le champ. Ok. Quelquefois, ils ont raison. Vous croyez quoi? Qu'il faut toujours attendre une heure avant d'avoir parfaitement assimilé le propos d'un autre? Pas forcément. Et puis, des fois, je prends le temps de réfléchir. Je réfléchis quoi? Une heure? Ben, peut-être que je réfléchis 10 ans. J'en sais rien. Voilà. Ça, c'est la difficulté, donc, pour ça que je vous dis, faut quand même pas être dupe du problème qui est posé. On parle, en fait, quand on réfléchit, donc, aux règles qui peuvent discipliner, structurer une réflexion en commun. Quand on réfléchit à ces règles-là, on peut, je pense que c'est, comment dire, c'est l'exercice cette Mishnah, mais on peut trouver donc soi-même, on peut en rajouter d'autres, on peut trouver la discipline qui effectivement peut conduire quelqu'un ici. Mais voyez à quel point on tombe rapidement dans ce que j'appelle la haute théoricité, ne pas répondre avec précipitation. Voilà, je nous dirais bonjour, vraiment. Comment on vit ça? Vous voyez, la Mishnah a dit ici sa règle. Comme toute Mishnah, c'est un enseignement, voilà, ça se transmet. Mais qui va nous enseigner les modalités selon lesquelles cette règle doit être vécue et appliquée, à quel moment? Mais personne. Personne. On ne peut pas nous donner d'exemple. Ce n'est pas parce que j'aurais vu mon grand maître attendre une heure avant de répondre à une question d'un élève que moi, je vais alors, ouais, ça, on appellera ça le singe savant. Lui aussi, maintenant, désormais, il attend une heure avant de répondre à la question de l'autre. Non, mais on sait très bien que cette chose-là, elle doit être modulée à chaque fois. Voilà. Ça pour dire qu'avec tout ce qu'on va dire, faut pas imaginer qu'il y a une issue, en fait. On est en train de soulever un problème autour de cette question de la communauté de réflexion, où on prétend une certaine communauté. Je ne dis pas que la chose peut pas se dérouler, on va en parler progressivement, mais le problème qu'on soulève, il est le fait de réfléchir, d'être capable de réfléchir en commun, il est tel qu'il n'y a pas du tout donc de solution à proprement parler. On est devant un problème qui lui-même ne peut qu'évoluer et dans lequel on peut que faire des erreurs. Peut-être qu'il aurait fallu que j'attende davantage avant de réfléchir à réagir à tel propos. Vous savez, des fois, nos réactions ne sont pas forcément de grandes conséquences, mais des fois elles en ont. D'accord? Si par exemple, je sais pas, je me sépare de quelqu'un parce que je juge que vraiment ce qu'il dit c'est n'importe quoi et je ne peux plus continuer à discuter avec lui, oui, ça a des conséquences à long terme. Si j'ai raison, tant mieux pour moi. Et si j'ai tort, alors c'est moi qui ai perdu. J'ai perdu parce que j'ai perdu un véritable espace de dialogue. Simplement, ici, tellement surpris, tellement pris à rebrousse-poil, tellement choqué par ses propos, j'étais incapable de faire la part des choses et de me dire, prends-toi le temps de réfléchir. Donc, vous voyez, dans ce genre de choses, l'idée de ne pas répondre avec précipitation, c'est ce qu'on pourrait appeler saisie fourre-tout, vraiment, c'est une pochette surprise. Qui est profondément vrai, mais qui est, comment dire, littéralement inapplicable. On devra à chaque fois se retrouver dans les situations dans lesquelles on est soi-même toujours exposé à se tromper. Voilà, je vais en rester là sur ces questions donc de règles. On y en a dans la Mishnah en 7. C'est pour vous donner une idée du problème. L'idée du problème, c'est donc que pour l'instant, on aborde un aspect des éléments. C'est dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler le conflit des paroles, des interprétations, des thèses. Si on désire que se forme une réflexion en commun, que notre réflexion ne reste pas toujours et tellement solitaire, Alors, on a besoin d'une discipline constante dans notre rapport à la parole de l'autre. Je vous épargne toutes les autres dimensions. Ça, ça suppose simplement pour l'instant de faire émerger la possibilité de réfléchir en commun. Ça ne veut pas dire encore qu'on a affaire ici à une vraie communauté. Pour l'instant, la seule chose dont on parle, vous savez, réfléchir avec d'autres personnes, les règles que je vous ai données, par exemple ici, on pourrait les appliquer en tas de circonstances. Pas forcément dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une communauté de gens qui se retrouvent, qui partagent des choses en commun, etc. Lorsque je suis en face de quelqu'un qui me tient n'importe quel propos, je pourrais aussi commencer à me dire, tiens, te précipite pas pour juger. Ouais. Ce sont des règles fondamentales, tout simplement, du dialogue. Ça ne forme pas encore une communauté. Il faut faire un pas de plus pour envisager cette question de la communauté. Alors, là, je dis tout de suite, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que ça va mettre en œuvre une toute autre perspective. Je vais vous le dire d'abord de manière très formelle, encore une fois. Une des particularités d'une communauté d'études, c'est qu'elle a des secrets. Voilà. Et ces secrets, comme tout secret, il est interdit de les dévoiler. Alors, je vais essayer de vous développer ça un petit peu. Quand je dis qu'il est interdit de vous dévoiler... Oui, je dis... une communauté d'études, si elle existe comme communauté, elle a forcément des secrets. Comme toute communauté, elle a des secrets. Et ces secrets, il est interdit de les dévoiler. Voilà. Ça, ça va nous rejoindre, ça rejoindra, disons, la fin de cet adage talmudique que je citais au début, à savoir que dans le contexte de l'étude, c'est la guerre, puis quand il se sépare, c'est l'amitié et l'amour retrouvés. Voilà. Et bien, dans la communauté des amis et des amours, par définition, il y a des secrets. Et s'il y a une chose à laquelle on tient, c'est que ces choses-là ne passent pas à l'extérieur. Voilà. Alors, une des façons de situer, on va dire presque le réel d'une communauté d'études, c'est précisément à cette capacité de rétention à l'égard de ce qui s'y dit et de ce qui s'y vit. C'est très paradoxal. Parce que vous voyez, contrairement à la communauté des amants ou des amis, alors un ami, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, on peut lui avouer ses choses les plus difficiles. On sait qu'il ne dira pas, il n'en fera pas de la publicité. Parce que si jamais il en faisait la publicité, alors mon Dieu, cet ami, on l'a perdu. Voilà la manière dont on réagit en général. Ben, dans le cas d'une communauté d'études, c'est le même problème. Voilà. Pourquoi ? Il y a deux choses qui sont en jeu. D'abord parce que une communauté de réflexion, en fait, par définition, elle est fermée. Elle est fermée. Pourquoi ? Parce que si je dois accepter, prendre le risque, m'exposer comme quelqu'un qui aura tort, quelqu'un même qui peut avoir dramatiquement tort, et plus les discussions sont sérieuses et engagées, et plus mon erreur me sera difficile à avaler, si je prends ce risque, c'est à une condition. C'est que je ne sois pas exposé devant le tout venant. Il faut que ce soit réservé. Ça signifie un minimum de confiance entre les gens pour que j'accepte ici de dire ce qui se passe en fait au fond de mon cœur, dans tel et tel domaine, pour voir comment effectivement je touche ou pas une vérité, comment l'autre réagit, quelle critique il va en faire, ce que ça va m'apporter, comment il va m'éclairer, comment je vais rebondir avec lui. Oui, il faut cette confiance que l'échange va rester privé. Voilà. Ça, c'est la définition même, on dirait, de ce qui fait ici communauté, à savoir que je ne peux accepter de réfléchir avec quelqu'un d'autre et de le réfléchir vraiment, qu'à condition que ce dialogue soit clos. Clos entre les personnes qui sont ici concernées et qui m'intéressent. Pour vous donner un contre-exemple, vous savez donc... aujourd'hui, c'est tout le contraire, par définition. On considère qu'une pensée a du poids que si elle est radio, télé, diffusée, numériquement enregistrée, disponible sur le net, etc. Qui irait penser aujourd'hui ? Demandez à n'importe quel penseur, qui irait penser que c'est plus sérieux pour lui d'aller s'exposer intellectuellement devant un petit groupe de gens que de parler, comment dire, au grand public pour y exploser ses grandes idées, sa grande thèse, etc., etc. bah, tout le monde vous dirait que le nombre, ça fait un poids. Voilà. Et ça, c'est moderne dans la technique, si vous voulez, mais ça a toujours été comme ça. C'était le grand débat aussi de Platon avec les sophistes, etc. C'est pas nouveau. Mais ça suppose, comment dire, quelque chose dans lequel on n'est pas forcément habitué, ça suppose un certain sacrifice. Comprenez bien que les pensées les plus profondes, les choses les plus intelligentes, eh ben, elles sont dites dans des lieux qui sont clos, dont on n'entendra jamais parler, par définition. On ne fait pas partie de ce milieu-là, on ne fait pas partie de ce club. On n'appartient pas aux gens qui sont en train ici d'échanger, d'élaborer ensemble, de penser ensemble, etc. Et donc, cette capacité ici à toucher certaines vérités, à pointer du doigt certaines difficultés profondes, à les travailler en profondeur, etc., ben, elle ne s'exposera jamais à l'extérieur. C'est matériellement impossible. Et si on réfléchit à cette question, alors on tombe dans une sorte de curieux paradoxe que donc, voilà, c'est pour récupérer un peu le titre, hein, je fais de la récup, que les choses les plus profondes travaillées dans une communauté de réflexion, ces choses-là, elles ne peuvent pas s'exposer à l'extérieur. Quand je dis « je ne peuvent pas », alors on va prendre des nuances. On peut toujours, effectivement, une fois qu'on arrive à cette conclusion, les présenter, comme on dirait, au grand public. On fait un livre, par exemple. D'accord ? Un livre, ça se diffuse, ça a ses lecteurs, etc. Ça ne réclame pas une communauté particulière. C'est vrai, certes, mais le livre, il a une forme. Dans cette forme, vous comprenez bien que l'auteur prend grand soin de se cacher. On s'avance tous masqués quand on écrit. On se cache. On va gommer tous les échafaudages, on va gommer tous les heurts et les malheurs de la formation de cette pensée en question. Tout ce qui ici a pu être d'un coup, psychologique ou symbolique important. Bref, tout ce qui a fait le prix de cette pensée pour ceux qui l'ont vécu. On va tout éliminer. On fera, vous savez, les compositions à la française, introduction, trois parties, conclusion, voilà. D'accord ? Comme ça, le lecteur, il a la voie tracée. Il n'y a pas la moindre entrave, pas la moindre entorse, il risque pas de tomber dans un trou. Bref, l'auteur s'y expose le moins possible. Voilà, ça va faire que, les choses élaborées, les pensées élaborées dans une communauté d'études ne se transmettront, on va dire, que par bribes, partiellement, et à condition que celui qui récupère ce genre de conclusion, disons ce livre, il soit capable, lui, pour lui-même, ou dans le cadre de son propre, sa propre communauté de réflexion, il soit capable de le resituer. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est un exercice. Apprendre, quand on lit un livre, quand on entend une thèse, apprendre à restructurer tous ces éléments, savoir mais comment il pense ça, celui-là, pourquoi il pense ça, comment il est arrivé à ça, qu'est-ce qui est en jeu pour lui. C'est une démarche. Je ne dis pas qu'elle soit impossible. Mais comprenez bien que ça ne restera que des bribes, c'est des traces, on peut faire ce genre de parcours. Mais que foncièrement, l'idée même d'une communauté d'études, elle implique, au fond, que tous les autres en soient exclus. Voilà, c'est un paradoxe. Un paradoxe dans la mesure où, vous voyez, c'est une idée de communauté qui en aucun cas ne peut être universelle. Elle ne peut pas. Forcément, elle va devoir se limiter aux gens qui se sentent capables, par leurs affinités, par leur formation, de discuter les uns avec les autres et de discuter sérieusement. Et donc, on est en train de dire, tout simplement, que ce qu'on appellerait en général la communication est littéralement impossible, matériellement, impossible pour tout ce qui va toucher à une réflexion en commun. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, cet élément, on va dire comme ça, il relève tout simplement de la matérialité des choses. Il n'y a rien à faire avec. Le deuxième, il relève plutôt de la morale. Comment dire là ? Vous savez comment ça se passe ? Je sais pas, on revient du travail le soir, alors on raconte à son mari, à sa femme, « Ouais, un tel, je l'ai éclaté, un autre, t'as vu les conneries qu'il fait ?» Ouais, c'est le dialogue habituel, voilà. Alors ça, voilà, une des règles morales, donc, dans un lieu d'études, c'est que les choses qui se passent dans ce lieu d'études, on n'a pas le droit de les rapporter. On n'a pas le droit de les rapporter. Bah oui, parce que, comment dire, si je viens le soir, j'raconte à ma femme, un tel, je l'ai éclaté, celui-là, ou un autre, il m'a dit des conneries. Hein. Comprenez bien que ces choses-là, maintenant, je les raconte à ma femme, elle va changer son regard sur lui, automatiquement, les autres autour aussi, et ce qui était censé rester un échange purement privé, dans lequel on prend des risques, cet échange-là est mort. Voilà. Règle morale. On raconte une histoire, par exemple, d'un type qui a 20 ans après, il a raconté un secret qui s'était déroulé dans un, qui s'était dit, enfin, dans un lieu d'étude. 20 ans après, alors le maître, là, il est sorti, il lui a donné des coups. Voilà. C'est pour dire. L'ambiance. La, ouais, c'est très, encore une fois, il y a quelque chose ici. Il y a une dimension de sacrifice ici, parce qu'il y a une dimension ascétique dans ce genre de rapport. Parce que ça suppose qu'il y a certaines choses qu'on partagera pas avec les autres. Ceux qui ne font pas partie de cette communauté-là n'y auront jamais accès. Je pourrais même pas raconter ce qui s'y vit sans devoir mettre, en quelque sorte, en danger, exposer l'intimité d'autres personnes qui, eux, ne veulent pas ça et ne sont pas prêts à s'exposer de cette manière-là. Comprenez bien que moi, quand je me suis fait, comment dire, littéralement battre à plat de couture dans une argumentation, j'ai pas envie que ça vienne aux oreilles de toute la ville. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux pouvoir continuer à avancer et à réfléchir. Voilà. C'est une banalité. Mais ça fait partie donc de ce qui va être une des exigences de base du point de vue simplement moral d'une communauté d'études, à savoir qu'on y conserve tous les secrets. Et que celui ici qui dévoile les secrets, c'est celui qui détruit cette communauté. Alors il y a je voudrais finir avec un exemple, disons, un exemple assez étrange de ce genre de choses. Voilà. Ça nous veut faire une sorte de débat sur un problème de fond. Voilà, il y a eu un jour un décret qui a été pris, un décret par les sages, qui a été pris, que on n'a pas le droit d'enseigner à ses élèves sur la place du marché. Alors, on va développer la chose. Dans le monde, on va dire le monde antique, la place du marché, c'est la place donc où se déroulent tous les commerces. C'est la place où siège le tribunal. Le tribunal qui règle les affaires. Il est là parce que précisément donc c'est là qu'ont lieu les grandes affaires, etc. De telle manière que les gens puissent rapidement se rendre au tribunal pour discuter de tous leurs problèmes d'argent, etc. Donc c'est par définition un espace public. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'espace du commerce, c'est un espace remarquable dans lequel règne d'abord, je dirais, malgré tout ce qu'on dit, une grande égalité. Égalité du point de vue économique, à savoir que je n'arrache pas le bien de l'autre, je le paye. Voilà, on est tellement habitué qu'on voit même pas le prodige qu'il y a dans la chose, mais en soi, ça suppose donc un certain type de rapport. Et quand je le paye, alors, bon, je sais bien, en France, c'est pas comme ça, mais donc, au Moyen-Orient, tout le monde le sait, c'est comme ça, on discute pendant le temps qu'il faut pour arriver au prix convenu et convenable, d'accord ? De telle manière que les deux parties soient d'accord. Donc, c'est un espace de discussion dans lequel chacun arrive avec ses intérêts. Chacun, fort de ses intérêts, les défend au mieux qu'il peut. Les arguments sont tous des arguments audibles par tout homme. C'est un espace, on va dire, profond démocratique dans sa structure, parce que, a priori, si le commerce se déroule comme ça, on est toujours libre de vendre ou d'acheter comme on veut, quand on veut, et si on veut pas, on vend pas, ou on n'achète pas. Et donc chacun ici peut, comment dire, jouer le rôle, son rôle, on va dire, d'atome dans l'ensemble de des déplacements et des échanges qui s'y déroulent. Voilà. Alors, les sages ont interdit que se déroule une étude dans cet endroit-là. Alors, c'est une curieuse chose. C'est un décret, donc vous voyez, c'était pas forcément... Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est un décret qui a été pris aux alentours du IIe siècle. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ils ont interdit donc que se déroule ce genre... En bref, ils ont interdit que le type d'échange intellectuel, moral, etc., qui se joue dans un rapport d'étude, ils ont interdit que ça se déroule en place publique. Et ça, c'est en quelque sorte, la conséquence de l'ensemble des choses qu'on vient de soulever. À savoir que, il n'y aura aucun moyen pour quelqu'un qui pourtant participe à l'espace d'une société, donc à l'espace du commerce qui structure ces sociétés, qui fait circuler les biens, les gens, etc. Aucun moyen pour lui d'accéder à ce type de réflexion, à ce type de communauté, ce type de concertation. Aucun moyen à partir du lieu où il se trouve. Il faudra forcément qu'il se déloge et qu'il aille lui-même rencontrer un de ces lieux d'études. C'était pas évident. Il y a eu une controverse sur cette question. je dis pour que ce soit bien clair, il y a un sage qui s'est dit non, pas du tout, moi je suis pas d'accord. Et bon, ça a provoqué une querelle. Lui, il est allé sur la place du marché, il s'est installé avec ses deux élèves et ils ont commencé à discuter, étudier, etc., au vu et au su de tous. Au vu et au su de tous signifie que leur échange, leur rapport, est capable de s'exposer complètement, publiquement. Ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, les politiques de transparence. Enfin, c'est pour les gens obscurs. Ouais. Les politiques de transparence, vous voyez, pas plus transparent que ça. Être devant les autres, dans cette relation donc de réflexion commune. Alors évidemment, il faut une certaine, comment dire, peut-être même, je sais pas, comment dire, un côté musclé du point de vue moral pour effectivement pratiquer ça devant les autres. Mais voilà ce que lui, il a prétendu réaliser. Voilà, il s'est fait descendre, le sage en question, avec ses élèves, etc. Il s'est fait descendre par tous les autres. Descendre, ça veut dire, on lui a dit, ça veut dire son maître, donc, qui était le plus important, lui a dit, écoute, je veux pas te voir pendant 30 jours, toi, dégage. D'accord? Voilà. Oui, c'est intéressant. Oui, par exemple, ça. La vérité n'est pas négociable. Je suis prêt à faire un débat là-dessus, je dis le contraire. D'accord? Pour le principe. Ça s'appellera un débat d'études. Pour le principe. Ouais, la vérité, on passe son temps à la négocier. Voilà, je vous dis donc, c'était une controverse. Ce débat n'était pas du tout acquis à l'avance. Et finalement, ça a été tranché de cette façon-là. Tout ça, donc, pour dire quoi? Pour dire que. Je veux dire les choses peut-être un peu brutalement hein, sur la question, mais encore une fois, j'ai envie de secouer un petit peu là. Je me suis longtemps demandé, vraiment, je me suis longtemps demandé, comment se fait-il que finalement, on va dire, le judaïsme quoi, de l'intérieur soit si peu connu. Vraiment, sérieusement. Il est très peu connu des juifs, je vous dis franchement. Comment dire, ceux qui ne participent pas à ce genre de choses, ils ne connaissent rien. Ils parlent, c'est une autre chose, d'accord. Il est complètement inconnu des non-juifs, ce qui est étonnant. Réfléchissez bien à la question. C'est pas si évident de dire, oui, par exemple, je sais pas, ça fait quand même 2000 ans qu'il y a des juifs en Occident. Donc, et grosso modo, quoi, la culture juive de l'Occident, c'est la Bible. Faut pas pousser. Moi, j'aurais dit, écoutez, les mecs, manquez de curiosité quand même, non? Il y a pas un truc qui vous titille la tête de temps en temps. Il y a un tas d'études sur les mythes vaudous, sur les machins. Je comprends pas. Vous comprenez rien, vous connaissez rien au judaïsme. C'est quoi ce truc? Jusqu'au jour où, ouais, je suis tombé dans ce genre de texte. Et alors là, j'ai dû ravaler tout ce que je pensais, parce qu'en réalité, on est en train d'explorer, on va dire, cette dimension de non-communication totale entre, comment dire, ce qui se vit dans du judaïsme du point de vue de l'étude, de la réflexion, et puis le monde extérieur dans toutes ses dimensions. Vous savez, quand je suis en train de soulever cette question, comment se fait-il qu'au fond, vous ne vous rendez peut-être pas compte, hein, parce que vous ne mesurez pas les éléments. Alors, bon, faut prendre ma parole sous caution, hein, comme vous voulez. De mon point de vue, l'ignorance, disons, en matière donc, de choses juives, elle est énorme. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et jusqu'à présent, pour moi, c'était une question, une interrogation presque même comique. Je trouvais ça stupéfiant. Mais quand je débarque dans ce genre de texte et que je vois ce qui s'y joue, je suis obligé de constater que, en fait, non, c'est une dimension intégrante de la question même de l'étude et de la réflexion. Vous voyez, il a existé des académies platoniciennes, ok? On n'en a que des témoignages de bribes. On n'en sait rien, ce qu'ils ont vécu là-dedans. Alors, comme il y a 2000 ans d'histoire qui nous en séparent, alors on se dit, bon, l'archéologie, tout ça, c'est des trucs du passé. Mais non, c'est pas une chose du passé, c'est qu'en soi, structurellement, c'est toujours comme ça. Et je m'aperçois donc que c'est presque par définition qu'il y a, et il y aura toujours, une absence complète de communication entre ce qui peut se vivre à l'intérieur, disons, du monde de l'étude, par exemple, donc, du monde de l'étude de la Torah, de la Bible, et puis l'ensemble du monde extérieur. Jamais ça pourra passer. Et donc, ça m'amène aussi donc, à réfléchir sur les grands thèmes, vous savez, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu sur la communauté possible entre tous les hommes. Vous voyez, sur le commerce, sur la place du marché, la communauté est universelle. C'est pour ça qu'elle est, à sa manière, géniale. Elle est universelle, comment dire, elle est profondément démocratique, enfin, quand les règles sont respectées. Elle laisse accès à tout le monde, tout circule, librement, totalement, complètement. C'est vrai. Mais pas la pensée. Voilà. Pas la pensée. Ça circule pas. Et ça circule pas, et, alors encore une fois, je vous le dis aussi par provocation, en espérant peut-être que je me trompe, hein, j'ai l'impression que ça ne circulera jamais, que ça ne peut pas circuler. Voilà.